Vous avez remarqué? Les Jeux Olympiques et Paralympiques approchent à grands pas. Ça va être un moment génial, de fête, de célébration évidemment. Et je ne sais pas dans vos cercles, mais de mon côté, une bonne partie de mes amis parisiens préparent leurs vacances d'été et se posent la question de mettre leur appartement sur Airbnb à cette occasion. Ça pourrait financer au moins en partie leurs vacances, alors ça tombe sous le sens qu'ils y pensent. De mon côté, c'est certain, je serai à Lisbonne, donc mon appartement parisien, dont je suis propriétaire, sera sur Airbnb pour cet été, pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. D'ailleurs, ça me permettra de financer, en partie, mes vacances. Et vous? Imaginez ce que vous pourriez faire avec ce supplément de revenus. En réalité, votre logement pourrait rapporter plus que vous ne le pensez. Découvrez combien sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte, H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant.
On parle toujours de crise écologique, mais finalement, est-ce que vous avez jamais considéré que ce moment, c'est plutôt une immense opportunité? On parle de grands tournants, et on en parle aujourd'hui avec Olivier Morel, qui est un entrepreneur social, qui fait énormément de choses que vous allez découvrir au cours du podcast. Vous êtes sur Vlan, je suis Grégory, et je vous laisse avec cette conversation. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour Olivier.
Salut Greg.
Tu vas bien?
Je suis très heureux d'être ici et d'ouvrir le printemps avec ce beau soleil dans le studio. Ouais, ça va bien.
On va parler d'écologie.
Chiche.
On va essayer de parler d'écologie. On va parler de ta transformation à toi. On va parler de grands tournants. Pour toi, qu'est-ce qui a été ton grand tournant?
J'arrête pas, j'ai grandi à la montagne et en fait, j'arrête pas de faire du slalom. Ouais. J'aime les virages, j'aime les évolutions. Je te parlais de printemps en introduction. Oui, c'est le printemps en fait, quand on est connecté à la vie, c'est un mouvement permanent. Et en même temps que c'est un mouvement permanent, effectivement, j'ai l'intuition, l'observation et puis la conviction que aujourd'hui, on est à un point d'inflexion, à un tournant majeur dans notre civilisation. Les défis écologiques, crise climatique, crise politique, crise sociale, elles nous amènent à une métamorphose. Et parce que c'est vrai pour le monde en général, c'est vrai aussi pour le monde en particulier. Et c'est vrai aussi pour moi. Là où je pourrais nommer un gros virage... à l'époque, j'étais consultant en stratégie. J'aidais des grandes entreprises à dessiner des visions, des stratégies sur le long terme. Et je suis parti avec
des gens bien, hein.
paraît-il. Et je suis parti avec des copains au Forum social mondial avec des altermondialistes. C'était en 2007 à Nairobi au Kenya. On était 60 000, 130 nationalités. J'y allais par curiosité. J'avais pas beaucoup d'éveil autour de la pensée alter à l'époque, mais je me disais tiens comment ils s'organisent eux. Je m'attendais à voir des José Bové, des gens moustachus, de bourse sur des barricades, à imaginer comment démonter des fast-food. Ça c'est ce que je pensais avant. Ouais. Et en fait, j'ai été touché par la diversité de ces personnes. Qui venaient du monde entier, sur leur denier personnel, juste autour d'un mantra qui était « un autre monde est possible ». Et là où je pensais que les personnes étaient enfermées dans des pensées de lutte, je les ai vues se libérer dans des pensées d'émancipation, où leur intention, c'était de remettre la vie au service de la vie, de remettre l'homme et la femme, la nature, au centre des préoccupations. Et pour moi, en fait, les architectures intellectuelles dans lesquelles j'ai grandi, de être gentil et sérieux à l'école, pour avoir un bon boulot, pour avoir un bon salaire, pour avoir une belle maison, et ben tout ça, c'est venu en fait s'effriter un peu, ouais. C'est venu se ramollir. Parce que effectivement, je pouvais voir que dans la société de consommation, bah, il y avait des consommateurs. Et donc, c'était une invitation à être con, à être sot, à être mateur, et qu'il n'y avait pas beaucoup de joie là-dedans. merci de le prendre avec le sourire, parce qu'effectivement, c'est rigolo, et en même temps, c'est tout à fait interpellant, quoi. Ouais. Donc, mon point d'inflexion, il était à cet endroit-là, dans l'altérité, au contact de l'altérité, et puis au contact aussi de la fête, parce que c'était penser le monde, mais aussi célébrer le monde. Et je me souviens de danseuses éthiopiennes et de danseurs éthiopiens qui venaient avec leurs danses tribales, des danses qui ont traversé à la fois les géographies et l'histoire, et qui offraient ça, quoi. Et là, un choc esthétique. C'était beau, c'était bon, c'était évident. Moi qui étais en consultant, je pensais le monde à travers des PowerPoint, et là j'ai été pris par la danse et je me suis dit, mais c'est ça en fait. Comment est-ce que je peux construire le monde de demain ou penser construire le monde de demain avec des slides ? J'ai besoin de le vivre, j'ai besoin de le vibrer. Donc ouais, il y a eu que ça.
Alors du coup, quand on parle de grand tournant, pour revenir au slide de PowerPoint, qu'est-ce qu'on appelle le grand tournant ? C'est quoi le concept du grand tournant ?
En fait, avant le grand tournant, il y a l'incroyable accélération, ouais. The Great Acceleration. Quand on regarde un certain nombre de courbes, à commencer par la courbe des homographiques, pendant des centaines de milliers d'années, on a cru de manière éparse, un peu partout sur la planète. On a grandi, on s'est développé, et en 1850, on est 1 milliard d'habitants. Mmh. Et là, en 150 ans, avec la révolution industrielle, avec la transition démographique, on est passé à 7 milliards. Bam ! Volant. Il y a eu une incroyable accélération du nombre d'habitants sur la planète. Et cette incroyable accélération, elle suit aussi du coup toutes les activités humaines, la production de voitures, la production de routes, la production de téléphones, la production de biens. Mmh. Tout
et le transport de ces biens aussi, bien sûr.
Cette accélération, elle a des répercussions sur les activités humaines, mais aussi sur les incidences en termes d'impact écosystémique sur la nature. Donc la dégradation des sols, l'effondrement des écosystèmes, la production de méthane, la production de dioxyde de carbone. Si vous tapez sur un moteur de recherche Great Acceleration, vous allez voir que en fait cette incroyable accélération, elle suit plein d'indicateurs possibles. Face à ça, trois hypothèses pour la suite. Soit ça continue à accélérer. On pense que on peut avoir toujours plus de production, de biens, de services, que les nanorobots, le cloud, la ville intelligente, les crypto-monnaies, la libéralisation du marché va permettre en fait d'entretenir cet emballement. Mmh. Certains y croient, et à certains endroits j'y ai cru. Ça, c'est ce qu'on pourrait considérer comme le business as usual. Une autre qui est à la mode en ce moment d'hypothèse, c'est de penser que en fait, on ne peut pas croître jusqu'à n'importe où, en hauteur, et que ça va s'effondrer. Qu'en fait, on arrive aux limites de la Terre, qu'on ne peut pas avoir une croissance infinie sur une planète finie. Et donc ça, c'est les théories de l'effondrement. La courbe s'écroule. C'est pas dystopique. Une hypothèse qui est rigolote.
Non, c'est assez dystopique.
c'est effectivement un futur qui n'est pas souhaitable. Et en même temps, peut-être qu'il faut s'y préparer. À certains endroits, on a fait la fête et peut-être que maintenant, du coup, il va falloir se défaire d'un certain nombre de choses. Et puis, il y a peut-être un scénario intermédiaire qui est effectivement entamé un tournant. Donc, ce que Joanna Macy, notamment dans son livre Active Hope, Joanna Macy, c'est une Californienne de 88 ans, une activiste écologiste extraordinaire, qui a écrit un livre qui s'appelle Active Hope, traduit en français l'année dernière par L'espérance en mouvement, qui nous invite à dire, en fait, un grand tournant est possible. Un grand tournant pour engager la construction d'une civilisation, d'une société durablement compatible avec la vie. Et ça appelle un changement de conscience, un changement de comportement, un changement de relation. Elle a monté un mouvement qui s'appelle The Work That Reconnects, le travail qui relie, parce que à la racine du problème, pour elle, pour beaucoup, pour moi, il y a un problème de connexion. On s'est déconnecté de soi, des autres, de la planète. Et donc, tout notre enjeu aujourd'hui, c'est de nous reconnecter les uns les autres, de comprendre qu'il y a un réseau d'interdépendance, que nous sommes tous reliés. Et qu'en ayant cette sagesse-là, on va pouvoir engager ce grand tournant. Donc, le grand tournant, c'est une réponse optimiste, engagée, volontariste et joyeuse pour ne pas s'effondrer et pour ne pas croire qu'on pourra toujours continuer à abîmer le monde.
Et alors, ta réflexion, ça me fait beaucoup penser à l'épisode 82 où j'ai reçu donc Jean-Pierre Gou, que tu connais bien, où en fait, ce qu'on dit, c'est que finalement, toutes les projections qu'on a de l'avenir aujourd'hui, elles sont assez dystopiques. Donc effectivement, quand tu regardes les films, que tu regardes les récits, que tu écoutes des experts, c'est plutôt négatif. C'est-à-dire qu'on te dit, on essaie de te faire peur. Enfin, on te fait peur en disant, là, c'est plus possible, il faut complètement arrêter, etc. etc. Ce qui crée nécessairement des tensions chez chacun d'entre nous, parce que finalement, on a un confort de vie qu'on n'a pas vraiment envie d'abandonner, on a le goût du voyage qu'on n'a pas vraiment envie d'abandonner, on a notre voiture, notre moto, notre scooter, la manière dont on vit finalement, qu'on n'a pas vraiment envie d'abandonner. On nous dit, d'abord, tu dois tout abandonner et de toute façon, ça va s'effondrer. Donc en fait, d'un côté, on te dit, tu dois faire énormément d'efforts et puis de toute façon, quels que soient les efforts que tu vas faire, c'est pour tes enfants évidemment, mais dans tous les cas, en gros, ça va pas aller dans le bon sens. Donc forcément, t'as pas trop envie d'y aller. Et t'as tendance à être dans une courbe où tu te dis tu sais quoi, puisqu'il pleut dehors, on verra bien demain s'il continue de pleuvoir ou pas, mais pour l'instant je vais rester là où je suis quoi.
Effectivement, dans ces représentations il y a quelque chose qui nous anesthésie. Super que Jean-Pierre travaille le désir, l'éros, un autre complice de Jean-Pierre et des conspirateurs optimistes de l'Institut des Futurs Souhaitables, Patrick Vivray a cette vision de la nécessité de construire une stratégie érotique mondiale, de pouvoir réenchanter le monde pour qu'il nous donne désir, qui est une force puissante. En fait, Jean-Pierre, dans son travail, il travaille à la fois sur une vision qui donne envie, et puis il travaille aussi sur le champ du complexe. En fait, on est dans un monde qui est sacrément ambigu. Les Américains disent qu'il est devenu VUCA, volatile, incertain, complexe, ambigu. C'est un monde qui a plus de repères, ou dont les repères ont profondément changé. Je vous invite, en plus de Siècle Bleu de Jean-Pierre, à lire le livre de Bruno Marion, Chaos mode d'emploi, qui est un petit 80 pages qui se dévore et qui nous invite à dire que, enfin, à regarder le fait que, parce qu'il y a eu une explosion du nombre d'individus dans notre société, une explosion du nombre d'échanges dans notre système, une explosion de la vitesse de ces échanges, on est en train de rentrer dans une zone de turbulence. En fait, un espace chaotique. Chaos mode d'emploi, c'est ça. C'est, on est dans un monde qui est chaotique, et c'est pas une manière critique ou pessimiste de décrire les choses, c'est juste une manière scientifique, une manière de décrire un état. Quand je parle de l'eau, elle est gazeuse, solide, liquide, il n'y a pas de préférence pour l'un ou l'autre, c'est juste des états qui sont différents et donc qui ont des modes de fonctionnement différents. Et ben aujourd'hui, on n'est plus dans un espace stable comme au XXe siècle, un espace connu. On est en train de rentrer dans un espace qui est mouvant, instable, chaotique. Et donc, on est dans un espace où nos modes de fonctionnement, nos modes de rapport au monde peuvent plus être celui du contrôle, de la prévision et de la planification. Dans les marques que tu accompagnes, dans les entreprises et les conseils de direction que j'accompagne, on se rend bien compte que c'est difficile d'établir des lignes de prévision sur le long terme. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais ça veut dire qu'on doit s'ajuster en permanence. Il y a un modèle de Dave Snowden. Dave Snowden, ce n'est pas le hacker chevalier Edward Snowden, c'est l'ancien patron de l'innovation d'IBM, qui a monté un modèle qui s'appelle Sinfin, qui nous invite à regarder que quand les choses sont simples ou compliquées, on peut avoir des bonnes pratiques qui nous invitent à choisir les chaînes causales linéaires. Parce qu'il y a eu ça, ça va donner ça, ça va donner ça, ça va donner ça. Dans ces représentations, le passé influe sur le présent qui influe sur l'avenir. Dans les systèmes complexes ou chaotiques, dans ce qui est en train d'ouvrir la physique quantique, en fait, le présent est relié au passé, est relié au futur, mais il y a des boucles de rétroaction qui influent dans tous les sens. Ça veut dire quoi? Et c'est là que c'est dingue, et c'est là où Jean-Pierre Gou est un mec extra, c'est que le futur influe sur le présent. Notre vision du futur a une boucle de rétroaction sur le présent. Plus on énergise, ou plus on est disponible à une énergie présente dans le futur, qui nous fait vivre le présent, non pas dans la peur, mais avec courage, avec envie, et ben plus en fait, tout ça, ça va se transformer. Donc, à ta question de est-ce qu'il faut avoir envie du futur, il faut lui ouvrir les bras. Effectivement, les visions dystopiques, elles vont nourrir la peur, et les visions de futur souhaitable, merci à Mathieu Baudin, à Tariq Chekchak, à Martin Serralta, à Delphine Blumereau de l'Institut des Futurs Souhaitables, plus je serai accroché à des visions qui donnent envie de la vie, plus je vais trouver les forces aujourd'hui d'être connecté à ce qui fait sens.
Et il y a une chose que tu dis aussi et qui me semble essentielle, c'est qu'on vit dans des sociétés qui sont hyper individualistes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les efforts... j'avais cette discussion avec Florian, donc ce midi, où il me disait, mais est-ce que toi, t'es engagé? Je lui disais, moi, je trouve que je suis pas très engagé, parce que finalement... alors oui, effectivement, je mange moins de viande. Alors oui, effectivement, je marche plutôt que je prends un scooter ou une moto. Alors oui, effectivement, je trie mes déchets, etc. Mais finalement, je le fais principalement pour moi, pour ma santé. Je le fais pas nécessairement pour la planète. C'est très individualiste comme démarche. Et je crois que la problématique, elle est pas tant individualiste, elle est collective. Et je sais que toi, le collectif, c'est un truc qui te parle aussi.
Merci de faire apparaître Florian de Hello Tomorrow. Mais super organisation qui, voilà, dit mais bonjour demain, quoi. Mm-hmm. Bonjour demain, aujourd'hui, bienvenue, on va te visiter. C'est des super voyages donc pour avoir un goût d'un futur qui fonctionne déjà au présent. Par rapport à ce que tu disais sur bah alors, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pour les autres, bah voilà, moi, j'ai grandi avec les lunettes du XXe siècle où il y avait des séparations. C'était soit l'un, soit l'autre. Soit c'est du boulot, soit c'est perso, soit c'est pour moi, soit c'est pour les autres, soit c'est du business, soit c'est de la charité. Non, en fait, dans un monde complexe, on passe d'une vision binaire qui sépare, soit, à une vision qui intègre et transcende. On n'est plus dans le monde du « ou », on est dans le monde du « et ». Et donc, je peux faire les choses pour moi et pour les autres en même temps. Il n'y a plus de séparation entre moi et les autres. C'est une pensée fondamentale au cœur du Schumacher College, qui est un collège anglais que j'aime beaucoup, qui est à Totnes, en Angleterre, dans le Devon. C'est là où est né le mouvement des villes en transition. Et vraiment, le cœur de l'enseignement au Schumacher College, qui est un collège pour... tous les âges de la vie, c'est de passer d'une vision égotique à une vision écologique, d'une vision moving from ego to eco. Comment est-ce que j'arrive à, non pas me dissoudre dans le collectif, mais à trouver ma place dans le nous? Comment est-ce que le jeu est un jeu ajusté, puissant, en parfaite symbiose avec les autres? Je suis ravi, merci Pierre-Olivier de nous inviter dans ton studio. Bien sûr, je pense à la musique ici. Et du coup, les musiciens, les jazzmen, chacun est dans son jeu et en même temps en parfaite harmonie avec le reste du collectif. Donc, oui, j'aime le collectif et en même temps, je sais que le nous est fort si les jeux sont forts.
D'accord. Et alors, tu peux donner des débuts de réponse, en tout cas, sur... si des personnes se disent moi j'ai envie de participer à ce grand tournant, ou en tout cas j'ai envie de l'envisager de manière positive, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire si j'ai envie par exemple de m'inscrire dans un nous puissant et pas dans un jeu hyper individualiste qu'est la société du XXe siècle finalement, qu'est-ce que je fais en fait? Comment toi tu t'y es pris par exemple?
Ouais, merci.
Parce que
Le pacte civique, c'est un réseau de réseaux d'acteurs de la société civile. Ils ont fait une liste de propositions politiques. Leur premier amendement, c'était « Prenons régulièrement du temps pour réfléchir à l'impact de notre action. » Et donc, la première chose que je nous invite à faire, c'est à défaire, ou à refaire, ou à pas faire. De se donner du temps pour dire « Ok, là j'étais dans une ligne de course, comment je fais des pauses ?» Moi, j'ai pas arrêté de faire des pauses. En fait, je disais que j'étais consultant en stratégie, puis après j'ai bifurqué, j'ai travaillé dans le développement durable, puis après pendant plusieurs années je suis passé à mi-temps pour avoir des espaces de ressourcement en dehors du boulot, pour pouvoir choisir de me balader, de cheminer, de pèleriner sur des chemins de traverse au contact de mes envies. Alors ce que je vais dire, honnêtement, c'est parce que j'ai été hyper privilégié de pouvoir vivre avec un demi-salaire, et ça tout le monde ne peut pas le faire. Mais donnez-vous du temps le soir, le week-end, pour pas être juste dans ce qu'on a toujours fait, mais pour laisser de l'espace à des nouvelles rencontres, à des nouvelles synchronicités, à écouter les signes. Moi, le mouvement Colibri, par exemple, a été un super espace de rencontres et de mise en relation. Merci à Cyril Lyon, à Pierre Rabhi et aux autres pour permettre à chacun de faire sa part et de s'en sentir relié à d'autres. Aujourd'hui, je suis un entrepreneur qui a plusieurs activités. Je suis un animal à quatre pattes. J'ai des activités de conseil, ça c'est une jambe. J'ai des activités de retraite créative, ça c'est une autre jambe. Et puis j'ai deux bras pour explorer le monde. Autour de la connaissance de soi, un bras. Et autour de la danse et de l'apnée pour un autre bras. Ça pour dire que accepter de pas réunir tous vos membres, toutes vos actions au même endroit. Accepter de slasher. Slasher, c'est ce mot en anglais pour dire je fais des choses, slash d'autres choses. Slasher, en français, il y a quelque chose qui nous dit se lâcher. Voilà, lâchez-vous, laissez la vie vivre. Et c'est pas grave si vous n'avez pas tout de suite la cohérence. En fait, super de voir la cohérence en deux mots, comme de la co-errance, de l'errance à plusieurs. Errer, rencontrer et autoriser les nouveautés. Je parlais des retraites créatives que j'organise avec Cogiton. Cogiton pour dire réfléchissons ensemble et Cogiton partageons un gîte. En fait, on crée des espaces de ressourcement et de clarification à la campagne où les participants pendant 2, 4, 7 jours viennent se ressourcer. Il y a des marches en forêt, il y a des méthodes créatives pour à la fois savoir où j'en suis moi et puis par un jeu de coopération aider les autres et me sentir aidé pour écouter ce à quoi la vie m'appelle. Donc concrètement, j'utilise des méthodes créatives que j'utilisais en entreprise, mais cette fois-ci appliquées à des projets de vie. Je veux écrire un livre, je veux changer de métier, je veux changer de secteur, je veux déménager, je veux monter ma boîte, je veux fermer la boîte, je veux trouver un meilleur équilibre perso-pro. Eh bien, je propose, mais il y a plein d'autres propositions, de pivoter. Je propose à des moments où on en a besoin de sortir de nos trous de hamster et de nous laisser embrasser par... la forêt, nous laisser convier à une belle tablée avec des tartes aux pommes, de nous laisser jouer avec des post-it. Et ces moments, entre guillemets, hors de l'ordinaire, deviennent extraordinaires et nous permettent de toucher à « bah ouais, en fait, c'est ça qui fait sens pour moi ». J'ai pas besoin d'être révolutionnaire tout de suite, je peux déjà engager un petit pas pour voilà, participer à mieux d'harmonie en moi. Et quand j'ai plus mieux d'harmonie en moi, je suis plus en harmonie avec la vie et je participe au grand tournant.
Est-ce que tu crois justement à la stratégie des petits pas, que ce soit pour les individus, pour les États ou pour les entreprises?
Je crois et je pratique. Et en même temps, j'ai conscience que ça suffit pas. J'ai couru 8 marathons. À chaque fois, les 42 kilomètres, ils ont commencé par un petit pas. J'ai marché 700 km sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. À chaque fois, ça a commencé par un petit pas. Une des personnes les plus sages que j'ai rencontrées s'appelle Satish Kumar. C'est le fondateur du Schumacher College. Il invite à considérer la vie comme un voyage où nous sommes chacun des pèlerins. Et c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin. Donc le but, c'est pas d'arriver. Le but, c'est de cheminer. Donc chaque pas nous rapproche de ce qui compte pour nous, mais au moment présent, a de la valeur. Donc le petit pas, c'est un beautiful pas. C'est un small step, mais c'est un beautiful step. D'ailleurs, le collège Schumacher, il est en référence à l'économiste anglais E.F. Schumacher qui a écrit « Small is beautiful ». Donc, je nous invite à croire que c'est en faisant un pas qu'on va dans la bonne direction et qu'en plus, la valeur de ce pas est délicieuse. À côté de ça, il y a sans doute besoin aussi de changements systémiques. Cyril, dont on parlait tout à l'heure, avec l'affaire du siècle, et Marie, avec tous ces mouvements citoyens qui se mobilisent, appellent un changement systémique. Et effectivement, il y a des architectures, comme la création monétaire, comme les réglementations politiques sur la bio ou sur les semences, qui font que on peut faire des petits pas si on joue à un jeu où les dés sont biaisés, ben, on n'arrivera pas à s'émanciper complètement. Donc il y a du changement individuel et du changement collectif. C'est pas l'un ou l'autre, c'est pas l'un avant l'autre, c'est l'un et l'autre.
Et tu crois pas d'ailleurs que notre système de croyance, quelque part la manière dont fonctionne le monde doit s'effondrer, lui, à défaut que l'humanité s'effondre, que le système de croyance, parce que finalement, ce avec quoi on fonctionne, c'est-à-dire, tu vois, c'est con, mais ce midi, donc en allant rejoindre Florian, je marchais et je vois un mec sortir d'un très bel hôtel et tout le respect, et tu voyais sur sa tête qu'il attendait ce respect d'ailleurs, parce que finalement, il avait réussi, il avait de l'argent, donc d'un coup, parce qu'il avait de l'argent, il était respecté par les gens à l'extérieur, plus que le mec à côté qui est en train de balayer, ce qui n'a aucun sens finalement quand tu réfléchis. Et ça, c'est un système de croyance, finalement, que quand tu as de l'argent, c'est que tu as réussi et que tu dois être plus respecté qu'un autre, tu crois pas?
Ouais, merci de nous inviter à, enfin de me questionner sur mon système de croyance, nos systèmes de croyance. C'est incroyable le pouvoir que j'ai, le pouvoir que nous avons, quoi. Nous sommes créateurs. À travers mes représentations du monde, j'influe sur le monde. Ouais. Il y a cette expression qui dit « Dieu n'a que mes mains ». En fait, effectivement, j'ai un pouvoir créateur qui fait que je sculpte le monde à l'image de ce que j'ai envie de me représenter. Le matérialisme, le capitalisme, le consumérisme, ils ont eu leur valeur à un moment donné. Merci à celui qui a inventé les chaussures. Et merci d'avoir inventé des chaussures qui puissent s'enlever. J'ai pas besoin de les porter en permanence. Mais au moment où j'en ai besoin, elles sont bien utiles. Donc ça pour honorer les bienfaits des inventions du passé. Et en même temps, tout a des limites, tout est amené à changer, à évoluer. Et donc, ces croyances peuvent venir des enfermements. Et aujourd'hui, je peux être amené à reconsidérer le fait de travailler plus pour gagner plus. Ça a eu son heure de gloire à un moment. Et aujourd'hui, je comprends que les richesses, elles sont variées, que j'ai pas besoin de courir après les kilos euros, que je peux faire autre chose, que le bien-être, c'est pas que du faire plus. Bien-être et faire plus, c'est différent. Et là, bah, des nouveaux champs de réflexion et de vie s'ouvrent. Sri Aurobindo, qui est un activiste indien avant Gandhi au XXe siècle, nous a invités à nous regarder comme des mutants, comme une espèce en mutation. Et c'est formidable. On est la première espèce à pouvoir être consciente et actrice de notre propre évolution. Le singe, il a évolué, mais il n'avait pas conscience qu'il évoluait. Nous, on peut être conscient et acteur de notre propre évolution. L'épigénétique le dit, les mouvements des colibris le disent. Ça ouvre des perspectives qui sont enthousiasmantes.
Et en même temps, on a tous des dissonances. C'est-à-dire, enfin, on en parlait tout à l'heure, mais de se dire, bah, finalement, oui, mais qu'est-ce que j'ai besoin d'abandonner ? Et en même temps, j'ai pas envie de l'abandonner. Par exemple, très bien, l'argent, c'est pas le bon modèle, mais en même temps, aujourd'hui, ça l'est quand même. Et aujourd'hui, j'aime bien ma qualité de vie. Ces dissonances-là, comment toi, t'arrives à les gérer, en fait ?
En fait, je pense que c'est pas le terme, c'est pas les gérer en fait. Je pense qu'il n'y a pas à les gérer, il y a à les reconnaître, les embrasser avec tendresse et pouvoir, peut-être avec un processus par exemple de CNV, de communication non violente, reconnaître que si elles sont là, c'est qu'elles répondent à des besoins et que ces besoins, ils sont vivants, je vais en prendre soin et qu'il y a différentes stratégies pour en prendre soin. Moi par exemple, mon étalon de réussite, c'était mon augmentation de salaire. Pourquoi ? Bah parce que je passais 8 heures par jour à bosser, et donc c'était beaucoup de temps, et donc ben il fallait que je réponde à mes objectifs, et si je répondais à mes objectifs, ça voulait dire que je bossais bien, et donc j'avais des augmentations. Et donc ben d'année en année, un de mes indicateurs, conscient ou inconscient, c'était ma progression salariale. Et puis je suis passé à mi-temps, et j'ai vu, en dégradant mon salaire de moitié, que en baissant mon cash flow, j'augmentais mon rien flow, mon promenade flow, mon kiff flow, mon amour flow, mon surf flow, mon forêt flow. Et ça, c'était merveilleux. Donc, j'ai pas dit non à l'argent. J'ai remis l'argent à ses justes proportions pour moi. À cet endroit-là, je voudrais dire que j'étais à un endroit qui était tout à fait exceptionnel, que je pouvais vivre avec un demi-salaire. Merci à ceux qui m'ont aidé pour pouvoir faire cette expérience. C'est pas le lot de tout le monde. Et donc, ça pose des questions de comment est-ce que on peut aujourd'hui permettre aux personnes de pas être juste mobilisées sur leur survie. Et ça, c'est une transformation qui doit être systémique. Peut-être qu'on y aura un autre podcast sur le revenu d'existence.
Et alors justement, ce podcast s'appelle Vlan. Donc, à quoi tu voudrais ouvrir ou claquer la porte aujourd'hui ?
Merci Grégory d'avoir ouvert ce podcast. On s'est rencontrés il y a plus de 10 ans dans des métiers qui étaient différents. Et plus ça avance, plus je vois l'artiste en toi qui se réveille. Et ce à quoi je voudrais ouvrir, ben je crois que c'est ça. C'est à l'artiste ou aux artisans que nous sommes dans la construction de ce futur souhaitable, enviable, désirable, que chacun s'autorise, moi y compris, à le dessiner avec le cœur.
Ensemble.
Et ensemble, ouais, c'est joyeux. Moi, je suis en Ennéagramme un social, donc j'aime le groupe, quoi. C'est une vraie énergie. Et en même temps, je reconnais qu'à certains moments, l'isolation ou l'isolement choisi, ça a du bon. Donc, ouvrir à l'élan de la création et puis à quoi je veux claquer la porte.
Tu peux juste les ouvrir, mais vas-y, claque.
À cette idée de « ça marchera jamais ». À cette idée de « on a déjà tout essayé et c'est pas possible ». Honnêtement, c'est faux et ça tue l'énergie. Donc, si vous avez envie de dessiner des futurs possibles, je vous donne rendez-vous à des cogitons. Sinon, allez voir Hello Tomorrow, l'Institut des Futurs Souhaitables ou Blue Turn. J'invite aussi à contacter Greg pour faire une grande fête ici de faisons le podcast autour du futur de nos rêves. Et puis, derrière la porte, on mettra tous les « ça marche pas ».
Exactement. Parfait. Merci beaucoup, Olivier.
Merci, Greg.
Merci d'avoir écouté Blanc. Si vous avez aimé l'émission, vous pouvez le dire avec des étoiles, 5 de préférence sur iTunes, et le partager avec vos amis ou vos collègues. Je suis Grégory Pouy, vous pouvez me retrouver sur Twitter et LinkedIn sous le pseudo Greg from Paris. N'hésitez pas à me remonter vos remarques, vos questions, mais aussi les invités que vous aimeriez entendre.